C'est une joie d'être avec vous, c'est une joie surtout de pouvoir partager la parole, l'enseignement. C'est une responsabilité, mais un grand privilège. Et je me réjouis beaucoup de partager ce temps d'enseignement avec vous maintenant. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Luc 12. On va pas faire une longue introduction parce que je vois que l'heure tourne un peu. Donc Luc 12, ceux qui ont des Bibles, on pouvait l'ouvrir. Ceux qui n'en ont pas, achetez-en une. Il y en a des très bonnes. Luc 12. Versets 54 à 57. J'aimerais lire deux courts textes pour introduire mon propos. Et vous verrez que c'est des textes peut-être sur lesquels on prêche peut-être pas d'habitude. On prêche plutôt avant ou après. Je sais pas, c'est pas assez fort, non? Oui. Alors, faut monter un peu le micro, si jamais. Parce que d'habitude, je parle assez fort, on me dit souvent. Voilà. Donc, c'est des textes sur lesquels on prêche souvent sur une pensée avant ou après. Mais j'aimerais accueillir la parole un petit peu choquante, comme ça, de Jésus, de manière un peu directe. Alors, je vous invite à lire avec moi Luc 12, à partir du verset 54. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. « Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. » Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel, alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même la juste façon d'agir? C'est un peu violent, hein? On va prendre un deuxième texte dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Versets 1 à 7. 2 Timothée 2. Toi donc, mon fils, fortifie-toi au moyen de la grâce que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ, un soldat au service actif, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à son commandant. Un athlète qui participe à une course ne peut engager le prix, ne peut gagner le prix que s'il court selon les règles. Le cultivateur qui a effectué le travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis à ce que je te dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Ces deux textes pour parler de notre responsabilité de chrétien et de citoyen dans notre monde aujourd'hui. J'ai intitulé mon enseignement « Chrétien et citoyen », pas chrétien ou citoyen, mais chrétien et citoyen, espérance et responsabilité. Jésus disait à la foule, « Vous êtes capable de comprendre et de discerner ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Pourquoi ? Pourquoi ne comprenez-vous pas, ne discernez-vous pas par vous-même, même pas dit par la Bible, par une révélation, par une prophétie, par un bon orateur, pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même le sens du temps présent et la juste façon d'agir? On a la radio. Hein? Ça va, ça vous dérange pas trop, non? Je sais pas si vous imaginez à quel point, et dans ma traduction, c'est pas dans toutes les traductions, mais c'est hypocrite, donc assez fort, hein. C'est comme si on disait, mais bon sang, bonté, c'est incroyable, quoi. Vous savez, dans la vie normale, faire la cuisine, vous savez réparer une voiture si vous êtes mécanicien, vous savez faire les choses normales, vous lever, appeler quelqu'un pour la maison s'il y a besoin, enfin, Jésus dit dans la vie tous les jours, vous savez vous débrouiller quand même. Et tout d'un coup, dans l'église, il n'a pas dit ça, c'est moi qui le dis. C'est comme si vous arriviez plus à discerner par vous-même, sans orateur, sans truc, sans Bible, sans prophétie, et pas seulement discerner dans quel temps nous sommes, mais la juste façon d'agir. Je ne sais pas si vous imaginez le programme. Moi, ça m'a frappé quand j'ai préparé ce thème. Le programme juste, si on s'arrêtait là-dessus, je vais un petit peu plus loin, mais c'est incroyable. Il parle que sur la vie de tous les jours, vous savez agir, vous. Hein? Et là, Jésus est étonné, il dit hypocrite. Vous savez pas, pour les choses spirituelles, vous débrouillez pour
non seulement discerner les temps, et là nous on a de la peine, hein, on y viendra tout à l'heure, on a de la peine, même les grands orateurs ils ont de la peine, ils disent le contraire de l'orateur d'avant des fois, donc le livre X dit le contraire de l'orateur Y sur la fin des temps, etc. Donc on a de la peine à discerner les temps, puis on ne parle même pas sur la juste façon d'agir au quotidien. Et là Jésus s'énerve presque, on dirait presque il s'emporte, il dit mais comment ça se fait, vous arrivez à vous débrouiller dans la vie normale, et avec moi, avec Dieu, vous arrivez ni à discerner les temps dans lesquels on est, ni la juste façon d'agir. Aujourd'hui, je dirais que dans notre attitude, dans notre monde, il y a un esprit contraire à cet esprit de Jésus. Ça semble même noble et intelligent de ne pas avoir une parole qui discerne et qui sait. C'est l'éloge de la diversité, de la multitude des pensées, l'éloge de la contradiction même, du débat d'idées. Ça, c'est des gens intelligents. Les gens qui, comme Jésus dirait, il y a une manière de penser qui est juste, une façon d'agir qui est juste, ben c'est des pauvres, petits, naïfs, fondamentalistes, intégristes, qui n'ont pas compris. Parce que quand on est intelligent, on sait qu'il y a de multiples façons de voir, de multiples théories, de multiples pensées, et ça c'est la maturité. Et Paul à Timothée, dans le deuxième texte qu'on lit, on prêche souvent sur le cultivateur, le soldat, qu'est-ce qu'il y a comme troisième pensée? Il y a le cultivateur, le soldat et le... Voilà, ça on prêche souvent. Mais ce qu'il conclut? Il conclut en disant quoi? Qu'est-ce qui est cette dernière parole de Timothée? Il lui dit, réfléchis, car te donnera de l'intelligence, c'est-à-dire te rendra capable de tout comprendre. Il te donnera de l'intelligence, tu auras la capacité de comprendre. L'intelligence, la capacité de comprendre. Donc, Paul confirme à Timothée, tu as la capacité, tu as l'intelligence, elle t'est donnée, le Seigneur te donne, tu es capable de comprendre. Et si ça signifie une évidence pour Jésus, pour moi aujourd'hui, comme pasteur du 21e siècle, ça me choque, ça me dérange, parce que moi, j'arrête pas de dire, c'est plus compliqué que ça, je comprends pas tout, je ne sais pas, j'ai de la peine à discerner, etc. Et comme je disais avant, ça nous semble même presque gonflé de dire je sais. On est dans un monde qui peut pas dire je sais, mais au contraire, l'humilité, c'est de dire je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, etc., etc. Nous savons, je pense qu'on pourrait... Si on avait le temps, si on était en retraite d'église, on pourrait discuter un peu comment vous percevez ça, vous voudrez s'arrêter. Mais je pense que vous savez la complexité des choses, la complexité de notre monde, qui devient de plus en plus complexe. C'est difficile de gérer ses impôts, sa maison, son travail. Les choses sont complexes, sont dures. Est-ce que dans le monde spirituel, dans l'église, on peut dire Dieu nous donne la capacité de comprendre l'intelligence? Est-ce que vous avez la capacité par vous-même de discerner les temps dans lesquels nous vivons? Quel est le temps de Dieu pour cette église? Quel est le temps dans ce monde? Et puis, la juste façon d'agir. Alors, quand j'étais un peu choqué par ce texte de Jésus, qui pour moi, il dirait, bon, avec la maturité, avec le travail, vous arriverez à comprendre comme un objectif de la vie chrétienne, je comprendrais, puis on dirait, voilà, on est dedans. Mais qui traite, en plus, les disciples et la foule, hein, c'est pas seulement les disciples, qui les traite comme ça d'hypocrites en comparant la vie normale, mais vous savez vous débrouiller dans la vie de tous les jours et avec moi vous n'arrivez pas, ça semble être une évidence, une simplicité. Je me dis, ça joue pas, pour moi c'est pas une simplicité, c'est difficile de discerner les temps, c'est difficile d'avoir la juste manière de... Alors j'ai dit, je vais regarder ce que Jésus a dit quelques versets avant et quelques versets après à ses disciples, dans quel contexte c'était chez Luc. Et donc, je vous propose de voir et de tirer quelques perles juste de ce qu'il a dit avant et juste ce qu'il a dit après pour voir. Et j'ai trouvé, c'est ça le miracle de la parole de Dieu, j'ai trouvé en fait des réponses qui me semblent assez précieuses, peut-être pas précises, mais précieuses, hein, parce que quand c'est précis, c'est tout net, il y a qu'à, je vous dirais pas, voilà, point 1, point 2, point 3. Mais des précieuses perles qui nous indiquent la juste façon d'agir dans ce monde, la juste manière d'être et de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et c'est juste avant et juste après. Alors il y a quelques perles comme ça qui vont nous aider justement comme chrétiens, comme citoyens, à avoir et à vivre une espérance et une responsabilité. Pour moi, cette juste manière d'agir, c'est d'avoir une espérance et une responsabilité. Alors première chose, on regarde un petit peu avant, là on n'a pas le temps ce matin, donc je vous le dis comme ça de tête, vous regarderez chez vous ce chapitre 12, on voit dans le chapitre 12 comment est-ce qu'il commence. Eh bien ce chapitre 12 commence déjà par le thème de l'hypocrisie. Donc quand Jésus leur dit « hypocrite, vous savez pas discerner, vous savez bien, etc. », c'est parce qu'il reprend déjà quelque chose au début du chapitre 12, et on peut pas le faire comme si nous on arrive comme ça au milieu d'une conversation, vous comprenez rien du tout. Il faut comprendre ce qu'il a dit. Vous lisez chez vous le début du chapitre 12, il dit « attendez, avant toute chose,
avant toute chose, oh, attention, quand Jésus dit avant toute chose, méfiez-vous, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ah bon? Si on a entendu ça dans la discussion, et si j'assistais à la discussion au début, je comprends mieux pourquoi à ce moment-là il leur dit hypocrite. Parce qu'il leur a déjà dit, juste avant, que avant toute chose, l'hypocrisie, c'était le levain des pharisiens. Qu'est-ce que c'est ce levain des pharisiens? Vous savez qu'on l'a dit, c'est le légalisme, etc. C'est plein de choses, c'est justement d'avoir réponse à tout, c'est tout codifié. Donc c'est pas la réponse n'est pas en train de nous dire, Jésus, vous devriez être comme les pharisiens, tout codifié. Ce qu'il leur dit, c'est de l'hypocrisie. Mais ce qu'il leur dit, c'est gardez-vous de ce levain des pharisiens qui est de l'hypocrisie. Donc voilà déjà une règle fondamentale. Avant toute chose, méfiez-vous de l'hypocrisie. Méfiez-vous pas des pharisiens, parce qu'on peut se méfier de nous-mêmes, méfiez-vous des évangéliques. Jésus dit, ça c'est l'hypocrisie. Avant toute chose, méfiez-vous de l'hypocrisie. Oublions les pharisiens. Donc une règle, si on veut être chrétien, si on veut être citoyen, si on veut commencer à discerner les temps dans lesquels nous sommes, si on veut commencer à discerner la juste manière d'agir, avant toute chose, ayons en horreur l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous en horreur l'hypocrisie? Est-ce que si on interrogeait là chacun, vous répondriez oui ou non? J'ai en horreur l'hypocrisie. Ou ça m'arrive d'être hypocrite. Ou ça m'arrive de m'arranger avec l'hypocrisie. Donc, première règle, comme chrétien, comme citoyen, pour discerner les temps, pour pouvoir agir juste, refusons, ayant rien à voir avec l'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Donc, soyons, disons-le positivement, vrais, authentiques, ce que nous sommes nous-mêmes. Ah bon, mais c'est déjà un peu libérateur, finalement. J'ai souvent des messages, je dis, comment être autrement que ce qu'on est? Là, il dit, avant toute chose, arrêtez d'être hypocrite, soyez vous-même. Bon, mais c'est libérateur. Si Seigneur dit, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, première erreur, avant toute chose, sois ce que tu veux. C'est déjà pas un message qui te met, soit autre chose, soit différent, ça va pas. En général, les messages, ça va pas comme on est, il faut. Là, le Seigneur, il dit, avant toute chose, sois toi-même. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas trop compliqué jusque-là, vous me suivez? Hein? Jusqu'à maintenant, ça va, soyez vous-même. Juste façon d'agir, chrétien, citoyen, espérance, responsabilité. Waouh, ouais, ben, sois toi-même, première chose. Donc quand il dit hypocrite, c'est pas pour dire que tu es complètement à côté de la plaque, Jésus. Comment on ressent d'abord, on sentait ça presque. Tu discernes pas bien les temps, tu es pas la juste façon d'agir. Il s'énerve un petit peu, Jésus. Je crois qu'il leur dit un peu hypocrite. C'est parce qu'il vient de leur dire, d'abord, soyez vous-même. C'est pas compliqué, je vous demande pas d'être... Soyez vous-même. Bon, voilà, premier point. Authenticité, première règle de base. Ensuite, le chapitre 12 continue. Et il va donner d'autres règles. Comment discerner? Ce discernement de la juste façon d'agir, c'est un point fort au milieu de d'autres choses que Dieu dit. Soyez vous-même. Deuxièmement, il invite à la confiance. Tout le chapitre, il leur dit, mais est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? 5 moineaux pour 2 sous? Vous connaissez ces textes, on n'arrête pas de prêcher là-dessus. Là aussi, on prêche sur ces textes pour des fois en plus de confiance, etc., etc. Mais c'est dans un contexte, c'est dans cette perspective où Jésus va arriver à dire, discerner la juste façon d'agir et les temps. Et il leur dit, n'ayez pas peur. Vous allez beaucoup mieux que etc. Ne vous inquiétez pas. Il le répète plus loin, il le répète au début du chapitre, il le répète au verset 6, 7, verset 22, etc. Il n'arrête pas de répéter quand il veut leur dire votre juste manière d'agir dans ce monde. Il dit, vous voyez les oiseaux, vous voyez, je les nourris, ne vous inquiétez pas, vous valez beaucoup mieux d'eux. Regardez les fleurs, ne vous tourmentez pas, votre père sait, ne crains pas petit troupeau. Il y a tout ça. Oui, donc de nouveau, c'est pas hyper difficile, hyper haut, le discernement spirituel, comment être dans nos temps, c'est pas 3 tonnes de sommes théologiques sur les polémiques évangéliques sur la fin des temps, le discernement, discerner les temps. Quand on fait une convention discerner les temps, on fait beaucoup de hautes réflexions. Ce que Jésus dit, sois toi-même, deuxièmement, aie confiance. Dans un temps de crise, peut-être qu'il faudra un peu le répéter autour de nous. Si le message de l'église évangélique, au fond, c'est « on peut avoir confiance ». On dit le contraire, on dit « attention, vous allez en enfer, attention, discernez des temps, il va arriver un apocalypse ». On est un peu comme ça, « attention, il y a les puissances spirituelles ». Je dis pas que c'est faux, Je dis ce que Jésus est en train de leur expliquer, qui s'énerve un peu avec eux pour leur dire « mais discernez les temps », première chose, il leur dit « soyez vous-même », deuxièmement, « ayez confiance ». C'est un peu différent. Moi, je trouve que c'est un peu différent de ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, dans un temps de crise, on aurait peut-être besoin de se le rappeler. Ayez confiance. Il leur rappelle les fleurs, les oiseaux, tout ça, votre petit troupeau, ne crains pas, l'église, tout ça, ne crains pas. Et il leur dit au verset 11, parce qu'on pourrait dire c'est fleurs bleues. Alors, tout va bien. Sois toi-même, fais ce que tu veux.
Ne crains pas, petit troupeau, l'église. Voilà, allez-y, continuez. Pas d'ambition, finalement. Dans ta vie, les fleurs, regarde les petites fleurs, regarde les petits oiseaux. T'inquiète pas de ta belle-mère, voilà, c'est tout bien. Hein. Verset 11, il dit, donc toujours, ne crains pas, toujours pas d'inquiétude. Quand on vous conduira pour être jugé, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit, à cette heure même, vous enseignera tout ce que vous aurez à dire. Donc c'est la même chose, ne crains pas, aucun problème. Mais quand vous serez traîné dans les tribunaux, quand même. Bon, enfin, ça a l'air une petite parenthèse comme ça. Mais... crains pas, il y a les fleurs, il y a les trucs, tout ça, soit toi en même temps. Bon, quand tu seras traîné dans les tribunaux, Saint-Esprit t'inspirera. Et moi, j'aime ça. Il n'y a pas de fleurs bleues, c'est pas décollé de la réalité, c'est pas la tête dans le ciel, je dirais. C'est chrétien et citoyen. Chrétien, j'ai de l'espérance, citoyen, je peux être traîné dans le tribunal. Oui, et j'ai de l'espérance et de la responsabilité. Et le Seigneur m'inspirera. Le Seigneur m'inspirera. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un idéalisme déconnecté des réalités. C'est une vraie réalité avec une vraie confiance en Dieu solide. Alors, est-ce que ça signifie, finalement, que si on est sans souci, que les fleurs... vous savez, Salomon n'était pas vécu, pas habillé aussi bien qu'elle, voilà, etc. Il n'y a pas besoin de semer... je mets les pieds en éventail sur une chaise longue, tranquille, etc. Ça veut dire qu'on sera sans souci, sans difficulté. Et puis riche, plein d'argent. Hein. Oui, puisqu'il est dit, pas seulement un peu riche, mais très riche, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il est dit, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas, petit troupeau. Extraordinaire. Donc, oui, la confiance, oui, l'authenticité. Petit passage devant les tribunaux, le Seigneur vous inspirera. Et il a trouvé bon que vous soyez sans souci et que vous soyez très riche parce qu'il a trouvé bon de vous donner le royaume. Extraordinaire. Il vous donne, il a trouvé bon de vous donner le royaume. Bon, immédiatement après, sans transition, le verset d'après où il nous donne le royaume, et vendez vos biens et donnez-le aux pauvres. Oui, c'est intéressant. Ou gloups. C'est extraordinaire. Vous voyez cette tension, hein? Vous inquiétez de rien si vous êtes traîné devant les tribunaux. Vous voyez cette transition, cette tension. Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume, vendez tous vos biens, donnez-les aux pauvres. Extraordinaire. Il n'y a aucun légalisme là-dedans. Et il n'y a aucune retenue de la part de Dieu, de son abondance, d'une confiance totale, de donner le royaume, d'être riche, d'être généreux et tout ça. Et il y a une totale exigence et un total don, vend tout tes biens, donne-les aux pauvres. Alors nous, on aimerait donner un peu le royaume dans l'Église, et puis donner un peu de nos biens aux pauvres. Voyez. D'avoir un peu confiance dans certaines circonstances et garder le contrôle sur certaines autres. Voyez. Pas comme ça. Sois authentique, aie confiance. Si tu es au tribunal, parce que ça arrive, ben je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je vais te donner l'abondance, le royaume, si j'ai trouvé bon, je vais te donner là, etc. Et puis aussi, donne tous tes biens, tout, pour les pauvres. Allez, radicalité de l'Évangile. Voilà, donc, si je vois ces attitudes, et puis ça suit par, bien sûr, les versets qui termine ce chapitre 12 juste avant le texte qu'on a lu, eh bien, veillez, tenez-vous prêt, heureux serviteur, si le maître à son retour chez lui le trouve occupé au travail. Hein? Donc, si on voulait résumer ces premières perles juste avant, se discerner les temps et sachez ce que vous avez à faire, authenticité, confiance, boulot. Soyez vous-même, ayez confiance, et puis il faut travailler, heureux. Le serviteur, vantez bien, il y a du boulot à faire, il y a des défis, il y a les enjeux, Dieu est complètement réaliste. Il donne ce qu'il faut et il est complètement réaliste. Voilà notre espérance, notre responsabilité. Authenticité, soyez vous-même, confiance et puis travail. Vas-y, c'est dur, il faut transpirer. Et puis ça, c'est les versets d'avant, les trois petites perles d'avant. Et là, il vient au milieu et il dit... mais vous n'arrivez pas à discerner, vous ne comprenez pas maintenant ce que je vous ai dit, avec la confiance, avec la responsabilité, avec le boulot, vous faites ce que vous pouvez, voilà, vous donnez, je vous donne, cette circulation de vie, hein, d'authenticité, vous n'arrivez pas à discerner, bon ça suffit pas, bon allez, on va continuer. Et il repart pour trois nouvelles perles, qui va nous donner de nouveau comme des indications, mais fondamentales, de vie. Alors le verset qui suit, juste après, c'est les premiers versets du chapitre 13. Tout d'abord, une interpellation de Jésus, qui va nous aider, justement. Je rappelle que le thème, que cette parole centrale, c'est savoir discerner et comprendre les temps dans lesquels on va et agir de manière juste. Restez là. Comme s'ils n'avaient pas compris, il continue, il reprend. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Cette fois, il ne parle plus la confiance, les petites fleurs et tout ça. Il a parlé avec vraiment des choses belles. Hein. Sois toi-même, la confiance. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Il y a des pauvres, donnez-leur. C'est très beau. Hein. Et là, il reprend un degré plus profond. Il dit, bon, vous n'avez pas compris encore. Vous n'arrivez pas. Hein. Ah ben, on va continuer. On prend le journal. Prenez la voie du Nord et ouvrez-la. Et là, c'est incroyable. Quels sont les deux récits que Jésus donne? Vous vous souvenez, un massacre des Galiléens et un immeuble qui fait 18 morts, qui s'écroule sur les gens. Franchement, vous ouvrez le journal du Monde à New York ou aux Émirats Arabes Unis, vous ouvrez ça, vous pouvez trouver exactement le truc. C'est quoi? C'est un massacre, c'est un attentat, et c'est un immeuble qui s'écroule, ou une avalanche qui tombe, ça, 18 morts. Vous avez deux trucs. Un, le massacre, c'est la volonté humaine. La tour qui s'écroule, c'est faute à pas de chance. Donc vous avez les deux émanations du mal. Hein. Il ne prend pas ces deux récits au hasard. Il prend le mal des hommes, un attentat hein, ou un viol, pour y mettre tout ce qui est de la volonté de l'homme, et puis la tour qui s'écroule, là, c'est faute à pas de chance. Hein. Voilà, ça arrive comme ça. Et là, Dieu enseigne sur ce qu'il vient de dire, comment on pouvait agir juste. Il dit en fait, quand vous avez ces situations, hein, prenez dans vos vies hein, des attitudes où le mal a agi, hein, des choses dures comme le viol, comme le rejet, comme perdre un travail, comme la maladie, etc. Ou des choses qui vous sont arrivées par la fatalité, il se trouve que vous êtes stérile ou que vous êtes célibataire, ou que vous avez, voilà, hein, c'est deux forces du mal. Jésus dit une chose, pas d'interprétation, pas d'analyse, pas de truc charismatique, il fait rien du tout de tout ça. Ils viennent à Jésus pour dire, mais alors il se passe quoi avec cette histoire-là, quand même, ce massacre, cette tour, hein, qui est coupable? Explique-nous, discerne. Justement, il vient de leur dire que c'est facile de discerner. Il leur dit, comment ça, vous ne discernez pas, vous ne savez pas? Ben, bon, on va prendre des choses concrètes. Hein. Les gens viennent à lui et disent, ben, alors c'est qui a pêché cette tour? C'est la faute à l'architecte, c'est la faute à la gauche, c'est la faute à la droite, c'est la faute à la politique, c'est la faute à l'État sauveur, c'est... Et il attend que Jésus mette en pratique ce... Ben alors voilà, dis-nous maintenant, discerne pour nous. Alors quel temps on est? C'est la faute à qui? Comment on doit faire avec ces choses-là? Avec ces massacres, avec ces viols, avec ces douleurs, ces choses infernales. Hein, nous, on n'y peut, on n'a pas demandé à naître, on n'a pas demandé à être sur cette terre finalement. Puis il y a des choses terribles qui nous tombent dessus. Il y a bien un responsable, il y a bien un coupable. C'est Dieu? C'est l'ennemi? C'est qui? C'est la faute à qui? Trouver un coupable. Ça, on est. Ou discerner même une théologie qui va expliquer le mal. Ah, tellement formidable. Ça passionne les philosophes. Ça passionne les théologiens. Trouver une explication au mal. Mais c'est la faute à qui? Mais d'où ça vient? Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Là, je ne vais pas vous dire. Trouvez, regardez ce qu'on dit. Alors là qu'on est sur le thème du discernement, et on est sur le problème numéro un du mal, du mystère du mal, il n'y a pas plus grand mystère. Qu'est-ce que Jésus leur répond? Là, on va avoir une réponse. Le mal, c'est la faute à qui? C'est le péché? C'est Dieu? C'est Adam et Ève? C'est moi? C'est qui? Qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus indique là le seul discernement possible sur le mal. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez me dire? Oui, et comment il l'exprime? C'est juste. Lisez-moi le petit bout du verset. Voilà, redis un peu plus fort. Encourageant. Hein. Super, avant il parle de petites fleurs bleues, il parle Salomon, enfin il parle vous. Faites confiance, soyez vous-même. Il dit si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout. C'était plus facile au début du message. Il donne le seul discernement, mes amis, possible sur le mystère du mal que vous pouvez faire vous-même au courant. Ça, je vous le dis. Quand je vois quelqu'un qui est blessé par la vie, qui a perdu son père, etc., je ne parle pas. Toi, moi, on est à la même. On a se converti, on a changé. On a se laissé bouleverser, je ne sais pas. Il dit juste à mon Jésus, mais c'est facile la juste manière d'agir. Vous devriez savoir, vous voyez le ciel, la pluie, les trucs, vous savez trucs et vous savez rien que moi. Et il dit, c'est simple, pas d'expliquer. Il dit, c'est simple juste de reconnaître qu'on ne sait pas et de se laisser transformer et qu'on est en route et qu'on ait cette pâte malaxée par les circonstances de la vie et par Dieu, notre Créateur. Et qu'on ait l'argile dans les mains du potier, c'est ça qui leur dit rien. Si vous ne vous convertez pas, si vous ne faites pas des demi-tours, si vous n'avez pas des chamboulements intérieurs, si vous n'êtes pas travaillé à l'intérieur, si vous ne restez pas souple et disponible devant moi, vous allez tous crever par vos raisonnements, justement par vos analyses, par vos lois, par tout ce que vous faites pour expliquer. Il leur dit justement, là, et c'est bouleversant, justement, La seule manière de ne pas mourir, de ne pas crever dans ce monde, c'est d'être complètement souple, ouvert, disponible à lui. C'est la conversion. Et conversion une fois pour notre salut juridique, mais conversion tous les jours pour être transformé, dépendant de lui. Et alors, comme si ça ne suffit pas, et dernière perle, parce que c'est un peu dur, quand on se dit, on va tous périr si on ne se convertit pas. Est-ce que je me convertis? Est-ce que vous vous convertissez tout le temps? Est-ce qu'on est, on est dans cette souplesse, dans cette maniabilité, dans cette douceur de cœur devant Dieu, face à ces circonstances, plutôt qu'aux théories, justement, appliquées aux autres? Il donne alors cette formidable parabole du figuier. Pour dire, si vous n'avez encore pas compris avec la confiance, avec l'authenticité, pour discerner les temps, vous n'avez pas compris que c'est en tribunal, je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours. Vous n'avez pas compris qu'en fait, on ne peut pas juger le mal, que c'est la faute à personne. C'est juste toi, moi, qui dois être souple dans la main de Dieu. Pas mou, mais souple dans la main de Dieu. Si vous n'avez encore pas compris, je vous donne un dernier point sur ce discernement, sur cette juste manière d'agir, comme citoyen, comme chrétien, comme espérance, comme responsabilité. Eh bien, le figuier, eh bien, le vigneron, il dit encore, je vais creuser, encore, je vais mettre du fumier, encore, encore, encore. Et ça, c'est l'amour de Dieu, toujours. Si on n'a pas tout compris encore, les fleurs, si on n'a pas compris encore le travail qu'il faut donner ses biens aux pauvres, c'est possible, on n'a pas tout. Si on n'a même pas encore compris qu'on doit se convertir, eh bien, il va remettre du fumier. Il termine là-dessus, il dit voilà, voilà le discernement, je vais pas me lasser avec vous, je vais encore mettre du fumier, je vais encore attendre du fruit, je vais encore creuser. Cette confiance, cette espérance, ce travail, ça veut dire que lui fait... ce vigneron, ce qu'il a dit avant, il fait l'authenticité, ce vigneron, il veut être lui-même. Il dit, mais moi j'aime ce figuier que j'ai planté, j'ai envie de recommencer. Peut-être qu'on me dit qu'il faut le couper, ben non, moi j'ai envie de, c'est l'authenticité. Il a confiance dans ce figuier, il met en pratique cette confiance. Il donne tout pour ce figuier, il donne ses biens aux pauvres, il donne ses trucs. Il applique exactement ce qu'il a fait et il se convertit tous les jours, ce vigneron. Parce qu'il recommence de croire encore pour ce fruit. Vous voyez, il applique tout, il résume tout. Alors, on n'a pas le temps d'allonger, mais vous avez compris. Véritable espérance, véritable responsabilité, véritable discernement qui est comme concrétisé pour ce figuier dans cette cinquième perle. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Alors, on va projeter peut-être l'image maintenant. Les pétanqueurs. Alors, on va agrandir un petit peu. Ce n'est pas une image très bonne qualité, c'est une photo de journal. Hein, donc... Alors voilà, on va s'arrêter là. Donc vous voyez que c'est une équipe de, on voit peut-être pas très bien, c'est des British, c'est des English, des Écossais. Des... voilà. Et ils se trouvent en vacances sur la Canebière à Marseille. Et puis là, c'est les Marseillais qui sont attablés et qui s'étonnent un peu de la manière de jouer des British, ils apprennent la pétanque. Donc ils ont mis les boules là, ils discutent. Hein. Vous arrivez à lire ce qui est marqué ou on peut agrandir un peu? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant en Suisse? Faudrait un accent anglais pour dire... Ben maintenant, on peut lancer le cochonnet, je crois. Hein. Voilà. Je crois que maintenant, nous pouvons lancer le cochonnet. C'est la question de jouer selon les règles ou pas ou jouer comme ça nous arrange. Vous voyez ? On place les boules. Voilà. Une fois qu'on a placé les boules, chacun joue. C'est le même jeu. Hein. On lance chacun ses boules. Et après tout le débat... Si Robert a mis sa boule ici, elle est là, on l'amène là. Moi, je vais faire tout pour que le cochonnet soit vers ma référence. Et toi, je vais faire tout. Tu
crois tout, merci.
Donc, j'ai besoin de comprendre une image très, très, très importante. C'est qu'il y a deux manières de jouer à la pétanque. Hein. On met un but, et tout le monde doit aller vers ce but. Ou alors, on joue tous comme un envie, et tout le débat va être où mettons le cochonnet, où mettons la référence. Et j'ai trouvé cette image absolument extraordinaire pour illustrer exactement les problèmes éthiques de notre monde. Je n'ai pas trouvé une image plus forte que celle-là. Les chrétiens, ce qu'on devrait faire, on fait souvent pas en joue comme les critiques, on devrait, c'est évident pour nous la vie, on devrait dire, on place notre chemin, c'est des belles règles de la pétanque, c'est une bonne règle de l'évangile, c'est une référence qui a été donnée, qui a été posée, et on vise tous le meilleur possible pour s'approcher du but. Donc Dieu donne un truc pour le prochain, il est posé, il y a le cochonnet, on essaie tous d'y arriver. Mais l'esprit du monde, c'est pas ça. C'est exactement comme ils ont fait. Chacun joue comme il veut. D'accord, on n'a pas le cochonnet, on refuse l'invitation, on refuse une référence.
Et après tout le débat avec l'humain. Là, il y a un débat de 3 heures. Non, dans les boules, elles sont rassemblées. Elles prennent beaucoup. Et dans notre société, les boules. Vous voyez, quand il y a une société judéo-chrétienne, quand il y a une société qui a une culture à peu près au niveau, les boules peuvent être placées avant le chevet. Elles vont être à peu près toutes dans le même secteur et on va mettre le chevet. Plus les références sont diverses, multiples, plus les arrière-plans sont plus communs qu'aujourd'hui, plus les boules vont être espacées. Donc plus le débat et la complexité dans où venir poser la référence pour une loi, après, et c'est pour ça que Dieu, dans ce texte de Timothée, qu'on a lu un peu rapidement, nous donne quelque chose d'extrêmement important quand il dit « Attention de ne pas être disqualifié, il faut jouer selon les règles. » Et il y a deux choses, et je termine, c'est ma conclusion. Il y a une référence à l'interne, vous pouvez être hors jeu, vous pouvez être disqualifié. Ça, c'est sérieux. C'est le premier point, là où, attention, il y a un fil rouge. Là, c'est grave, là, c'est sérieux. Dieu nous dit par Timothée, par Paul à Timothée, attention, jouez de manière à ne pas être disqualifié. Vous pouvez être disqualifié. Si le chef national de les règles de pétanque arrive là, il dit, je n'entre pas en matière sur la discussion de où on va mettre le cochonnet. C'est pas les règles, c'est disqualifié. Oui, d'autres peuvent dire, on peut jouer autrement. Donc discutons, on va mettre le cochonnet. Mais il y a une règle, et c'est pas selon les règles, et le chef de la pétanque dira, vous êtes exclu, vous êtes disqualifié, on ne peut pas jouer comme ça. Vous voyez ? Donc ça, c'est une règle à l'interne qu'on ne peut pas appliquer, qu'on essaye souvent d'appliquer aux non-chrétiens. On ne peut pas l'appliquer aux non-chrétiens, vous voyez ? Parce qu'ils jouent selon les règles qu'ils veulent. Comment vous voulez leur dire, c'est l'arbitre Jésus-Christ, quand ils ne le reconnaissent pas, cet arbitre ? Chacun fait les règles qu'il veut dans un jeu, d'accord ? On peut créer un nouveau jeu, une nouvelle règle. Donc nous ne pouvons pas, c'est une règle à l'interne. On ne peut pas dire aux autres notre règle. Mais pour nous chrétiens, première règle à l'interne, attention, on peut être disqualifié. Je ne vais pas plus loin, ça sera un autre message. Qu'est-ce que ça veut dire être disqualifié? Comment est-ce qu'on peut être disqualifié? Quelles sont les lignes rouges dans l'Église pour être disqualifié? Ça serait un autre chapitre. Mais je reste sur le discernement et sur notre responsabilité de chrétien. C'est la règle à l'externe qui m'intéresse. On ne peut pas lancer le cochonnet après la partie. Notre monde, la société, il peut ne pas accepter le cochonnet Jésus-Christ. Pas de problème. Si, c'est un problème. Ouais. Mais on est obligé d'avoir une référence, une révélation. On ne peut pas vivre en société, tout le monde est d'accord là-dessus, si on n'a pas une règle. Et tout l'enjeu va être, plaçons notre cochonnet ensemble, en société, en démocratie, en pays royaliste, peu importe, mais plaçons notre cochonnet, quel qu'il soit, même si ce n'est pas Jésus-Christ, et après on joue. D'accord ? Aujourd'hui en France, il n'y a pas de cochonnet. Il n'y a pas de cochonnet. Il n'y a pas de référence reconnue. Donc c'est ingérable. C'est tout simplement impossible. Parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de cochonnet. Et ça, Dieu va nous dire vraiment, dans cette authenticité, dans cette confiance, dans ce don de soi, de prendre notre part de souffrance. Il a dit, prends ta part de souffrance dans ce texte. Parce qu'il sait bien qu'on est dans une situation difficile et qu'on a simplement, dans cette situation, constaté la difficulté, constaté l'impossibilité, parce qu'il n'y a pas de référence commune, prendre notre part de souffrance. Et pour nous chrétiens, savoir que la référence, le cochonnet a été placé une fois pour toute circonstance, pour toute relation, pour toute explication, pour tout discernement, c'est la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est le cochonnet qui a été placé, c'est le signe qui a été posé là. Et tout ce que nous vivons en Église, tout ce que nous disons vouloir discerner, juger à l'interne, hein, en discernement, c'est au pied de la croix, à la mesure de l'aune de l'amour de Dieu, de son don total, que ça peut être jugé. Voilà, donc cette conclusion, c'est pour dire, le cochonnet pour nous, là je ne parle plus du monde, je parle pour nous, il a été posé, on veut jouer selon les règles, et nos boules vont s'approcher de ce cochonnet. Hein, mais il a été posé, et c'est à l'aune de la croix de Jésus-Christ. Donc ce discernement des temps, cette juste manière d'agir, pour nous, authenticité, confiance, travail, conversion permanente, à l'aune et à la référence de la croix de Jésus-Christ. Amen.